Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Lionel Rauque pour son livre « Laissez-nous bosser » aux éditions de l'Observatoire. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Livre que vous avez coécrit avec Isabelle Lasserre, journaliste au Figaro. Vous êtes chef d'entreprise, entrepreneur dans l'audiovisuel, dans l'événementiel, dans la communication. Vous employez quoi, je crois, 100 salariés, une centaine de salariés.
Et la restauration.
Et la restauration.
Depuis le Covid, j'ai pensé qu'il fallait, au contraire de ce qu'on nous expliquait du distanciel, remettre du présentiel et que les restaurants étaient un bon moyen que les gens se rencontrent. Donc on a monté un quatrième pôle qui est la restauration avec un premier restaurant à Genève et un restaurant à Rueil-Malmaison.
Voilà, c'est écrit sous la couverture. Le coup de gueule d'un patron de PME contre les aberrations du monde du travail. Vous n'êtes pas un patron du CAC 40. Vous êtes le chef d'entreprise, j'ai envie de dire, le prototype du chef d'entreprise français qui existe. Il y en a des centaines de milliers.
Entrepreneur de PME, donc sur les quatre métiers, qui permettent d'avoir des clients et des univers très différents. C'est-à-dire que sur l'événementiel, on travaille pour les multinationales étrangères, les grands groupes du CAC 40 dont vous parlez souvent, les groupes familiaux et aussi les réseaux indépendants. Sur la communication et l'ERP, on bosse pas mal avec des belles PME industrielles françaises. Sur la production de films, on travaille avec les grandes chaînes de télé. Et sur la restauration, ben là, on a...
Donc vous avez un bel aperçu du tissu économique français.
Et je crois que c'est peut-être la spécificité et l'intérêt du livre, c'est que c'est vraiment, je suis un entrepreneur de terrain, puisqu'avec 100 salariés, vous n'avez pas des hiérarchies qui permettent d'avoir des directions de personnel, ça, donc vous prenez les problèmes en pleine face au quotidien, et donc ça permet d'avoir un certain regard.
Ce livre, Lionel Rauque, il faut le rappeler, vous l'avez écrit après avoir envoyé en juin 2023, une lettre, une missive au président de la République, Emmanuel Macron, qui ne vous a jamais répondu. Vous n'êtes pas trompé d'adresse, non, quand vous l'avez envoyé?
Je ne suis pas trompé d'adresse.
Non, sérieusement.
Et on l'avait envoyé en recommandé. Ce qui me surprend, d'abord, j'ai connu une époque où quand vous écriviez au président de la République, l'Élysée vous répondait, et même on ne payait pas le timbre. C'est-à-dire c'était un droit des Français.
Vous écrivez souvent au président de la République?
Non, mais c'était connu. Oh, j'avais dû faire ça il y a 20 ans. Vous savez, on est optimiste. Hein, donc, et pourquoi je lui écrivais? Je lui disais, attention, les PME, mais c'est vrai aussi pour les TPE, pour les commerçants, et donc les classes moyennes, parce que ce sont nos salariés, c'est en train de se tendre très fortement. Ça se tend de façon...
Qu'est-ce qui se tend?
C'est-à-dire qu'on sent un ras-le-bol, une fatigue, à un point inimaginable.
Il y a un ras-le-bol et une fatigue de qui?
Alors, des entrepreneurs qui, globalement, font le boulot, mais ont plus l'envie, ont plus la passion. Et ils disent, on en a marre. Qui cherchent même plus à vendre leur boîte, qui les ferment. C'est vrai aussi avec les commerçants. Et les salariés, les classes moyennes, cette France qui bosse et qui a suivi, qui n'est pas celle qui manifeste, qui est celle qui est légitimiste, se dit, mais en fait, on nous explique la Startup Nation, on nous explique le droit à la paresse, et nous, on a tout bien fait. Et on a l'impression d'être ignoré. Et donc, il y a vraiment une fatigue, un énervement, mais qui ne s'exprime pas dans des manifs, qui ne s'exprime pas où ça casse, et là où on est en train de casser. Et je voulais signaler au président de la République, en lui disant, de mon expérience de terrain, sur tous les terrains, attention, parce que si cette France-là craque, on va avoir de gros problèmes.
Donc il vous répond pas et là vous dites bon, je vais en faire un livre.
Et je vous dis je vais en faire un livre. Et alors ce qui me fascine, c'est que depuis, gentiment, il y a quelques médias qui ont parlé de ce livre et qui chaque fois disent mais le président de la République vous a pas répondu, du Figaro, Sud Radio, le Journal du Dimanche et vous. Et ils continuent à ne pas répondre.
Après, certains vous diront mais on a comme rarement dans l'histoire en France une politique pro-business en faveur des entreprises qui a été menée par le président de la République depuis 2017. Baisse de l'impôt sur les sociétés, la flat tax quand vous prenez des dividendes, baisse des impôts de production, ça ne vous suffit pas? Et comme des choses qui ont été faites, vous le reconnaissez?
Non, ce qui... Alors, d'abord, en général, c'est quand je rencontre mes clients, les grands groupes, qui m'explique combien la politique du président de la République est pro-business. Je dis dans le livre que d'un côté, vous allez mettre une baisse, et puis de l'autre côté, vous allez mettre une hausse pour autre chose, c'est-à-dire, ah bah tiens, pour la planète, on va mettre telle hausse. On envoie des injonctions contradictoires constamment. Ce qui nous fait le plus de mal, je pense, mais je posais la question dans le livre, c'est-à-dire, je pense qu'on paye plutôt moins maintenant qu'au début, à l'arrivée d'Emmanuel. Mais j'en suis pas totalement persuadé. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est illisible. La CVAE, elle devait être supprimée.
La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, voilà, qui a été supprimée et différée dans sa suppression.
Voilà. Bah, donc, elle n'a pas été supprimée.
Elle a commencé à l'être, mais pas autant que...
Elle a commencé à l'être. Et donc, ça s'appelle des injonctions contradictoires. Il n'y a rien de pire que les injonctions contradictoires. C'est-à-dire que constamment, on vous dit « Ah ben, on est pro-business ». Oui, mais on va...
Pour améliorer l'attractivité de la France. Alors, l'image de la France, globalement, c'est quand même améliorée en termes de business.
C'est ce que vous racontez ici.
C'est pas le cas
ici. C'est pas parce que vous avez des belles entreprises. C'est intéressant ce que racontait votre invité, parce qu'il expliquait, OK, les cours de bourse sont vachement bons, tout le monde, la France est très attractive. Toujours est-il qu'aujourd'hui... Hein, les entreprises françaises investissent beaucoup plus à l'étranger que les entreprises étrangères en France. Juste chaque fois qu'on nous explique, ah regardez, c'est fabuleux, et qu'il faudrait peut-être commencer à remettre les entreprises au cœur de notre pays, pour donner envie à nos belles entreprises françaises, celles dont vous parlez régulièrement du CAC 40, à investir plus en France. On a un problème, les entreprises, les grands groupes français n'investissent pas en France, mais rien n'est fait pour les aider à ça.
Que quand en même temps, la croissance est plus en Chine. Les États-Unis croissent plus vite que la France, et donc les opportunités sont plus là-bas aussi.
Je ne condamne pas du tout les grands groupes. C'est assez normal que quand c'est LFI qui fait l'éducation économique dans notre pays, c'est assez normal qu'ils préfèrent aller investir ailleurs. Sauf que ça pose un énorme problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent en France. Et il n'y a pas d'argent en France, pour les PME, ça pose un problème.
On n'en fait pas assez en termes de politique économique pour les PME.
Mais qu'on ne fasse pas pour les PME, parce que ça c'est un gros truc. C'est-à-dire qu'on dit, ah bah tiens, on va faire pour les PME.
Et
on va faire pour les classes moyennes. Mais surtout qu'on baisse les charges salariales, les cotisations patronales, et qu'on attaque à la hache la bureaucratie.
C'est ça pour vous les deux dossiers entre guillemets sur lesquels il faut avancer, c'est les cotisations. Vous rappelez que pour un salaire de 5000 euros brut par mois, il reste la moitié avant impôt aux salariés.
Voilà, il reste un peu moins de la moitié et comme on nous a mis le prélèvement à la source, évidemment que dès que le président de la République va augmenter les impôts, et il va évidemment les augmenter, nos salariés...
Pour l'instant, il dit non. Oui, il a tenu jusque-là.
Pour l'instant, il tient, mais enfin, je crois qu'il a une réunion ce soir avec sa majorité. De toute façon, la tentation va être forte, puisqu'il ne s'attaque pas à la bureaucratie. Et la bureaucratie...
Mais les cotisations, juste important, sociales, pour vous, pèsent encore trop lourd, même si autour du SMIC, aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus, des cotisations.
Mais ce pays adore les bas salaires. C'est-à-dire que, à part dans la restauration où on est arrivé récemment et où je trouve que les salaires sont trop bas, mais personne ne gagne le SMIC dans mes entreprises. Vous pensez que j'en suis récompensé? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on prend les charges patronales en plein pot. Je ne sais pas pourquoi. On pénalise donc les entreprises qui essayent de bien payer leurs salariés. Par contre, au SMIC, alors ça, il n'y a pas de charge. C'est étrange. Et là-dessus, Gabriel Attal nous explique qu'il veut désmicardiser la France. Mais comment vous...
Pas contre, sur le principe.
Ah ben ça, je ne suis pas du tout contre, mais il faudrait m'expliquer comment on désmicardise la France si on ne baisse pas les charges patronales.
Alors, les cotisations patronales, elles financent la santé, elles financent le chômage, elles financent... Il faut bien les remplacer par autre chose, si vous voulez.
Bien sûr, je vous propose, mais on a suffisamment de brillants experts...
Le rapport dans les placards.
Je propose une idée qui venait de Serge Dassault, qui me semble intéressante, c'est une taxe sur le chiffre d'affaires, au moins une taxe sur le chiffre d'affaires, c'est parce qu'il faut imaginer quand même que... Le chiffre d'affaires d'une entreprise, c'est-à-dire toute entreprise qui fait un chiffre...
Un patron de PME qui demande une taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises.
Ben oui, mais en échange d'une baisse des cotisations patronales et des charges salariales, nos salariés ne gagnent pas assez et nous coûtent trop cher. Une fois que vous avez résolu, et c'est vrai aussi chez Boursorama, c'est vrai avec vos équipes, elles ne gagnent pas assez, elles coûtent trop cher. Donc on a des salariés qui sont pauvres, ce qui pose d'ailleurs plein de problèmes. Ça pose un problème de l'agriculture quand on dit « ah bah tiens les… »
Pourquoi personne n'y a pensé sur la taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises ?
Pourquoi ? Parce que aujourd'hui vous avez les syndicats qui co-gèrent les organismes, la retraite, tout ça, j'en sais rien. Pourquoi ? Mais ce qui est certain, c'est que de toute façon il faudra y venir. Pourquoi ? Vous ne pouvez pas avoir un système de répartition avec un problème de démographie, un problème de croissance et des gens qui, soi-disant, pourraient ne pas travailler. Donc ça veut dire que ceux qui continuent à se lever tôt le matin vont financer de plus en plus le système. Ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas durer. Donc ça a l'air très… Voilà, alors des politiques vont expliquer « oui, mais c'est pas aussi simple que ça ». Mais de toute façon, ça ne peut pas durer. Parce qu'on va mettre de plus en plus en tension nos salariés et on va pénaliser de plus en plus les entreprises qui ont des salariés en France. C'est une folie. Et la bureaucratie…
Sur la bureaucratie, qu'est-ce que vous demandez concrètement ?
La bureaucratie, si vous voulez…
C'est quoi la bureaucratie pour le commun des mortels qui nous regarde, qui ne se rend pas compte ?
La bureaucratie…
Au quotidien, pour un patron de paix.
Alors, vous regardez une fiche de salaire en France. Et on a racheté et relancé une affaire en Suisse. Et j'ai vu une fiche de salaire en Suisse. On pense que c'est un gag. Vous avez 5 lignes. Vous avez 2 pages. Mais est-ce que, donc, on remet…
On est tout informatisé aujourd'hui.
Tout informatisé, d'abord les taux changent tout le temps. Vous n'avez plus personne qui accepte de faire les payes, c'est-à-dire pour les PME, des entreprises qui font les payes, ils n'arrivent pas à recruter. Donc en fait, bientôt, on ne pourra même plus les faire. Il faut savoir quand même que pour gérer la bureaucratie…
Et quoi d'autre comme bureaucratie pesante, envahissante et chronophage ?
Mais constamment, vous avez déjà regardé le Code du Travail ? Le Code du Travail, si vous voulez, il y a 30 ans, il faisait ça, maintenant il est comme ça. Mais je lisais un bouquin sur le Code pénal, c'est pareil. Donc on nourrit du texte et du texte. Il y avait l'autre jour, enfin il y a quelques mois, une idée qui était le fait maison dans les restaurants. Ils voulaient mettre un label fait maison, ce qui est intéressant, puisque nous, on fait maison, et donc on était assez contents. Mais dès qu'ils ont cette idée, où vous dites qu'est-ce qui va nous tomber sur la gueule ? Bon, d'ailleurs, ils sont en train de reculer parce qu'ils vont vous remettre une norme et une norme. Il faut que l'État arrête et les politiques arrêtent de penser que leur job, c'est de remettre un décret sur un décret. Et qu'ils aillent, qu'ils regardent qu'est-ce qui est dans l'intérêt de l'économie française. C'est ça qui doit changer.
Donc les deux urgences, c'est débureaucratiser pour le patron de PME que vous êtes et revoir, baisser les cotisations, mais il faut trouver des financements parce que c'est notre modèle social.
Et donc, mais qu'on le transfère sur autre chose. Je ne demande pas, je ne suis pas un ultralibéral qui dit bah, « tiens, il faut supprimer ». Je dis « chercher ailleurs ». Et une idée du chiffre d'affaires. Est-ce que vous trouvez normal qu'une entreprise chinoise qui va fabriquer des voitures en Chine, qui va venir les vendre en France, avec un service marketing, si vous voulez, où il va y avoir 50 salariés, qui va se retrouver à faire 1 milliard de chiffre d'affaires en France, en fait, n'aura pas cotisé sur notre modèle social, pas juste la TVA, n'aura pas cotisé sur notre modèle social, mais aura profité de notre modèle social. Puisque le Français qui va l'acheter aura quand même eu soit des aides, et donc, et nous, on se retrouve, mais c'est exactement ce que vivent les agriculteurs. C'est-à-dire, on nous met les normes, on nous met les charges, et après, l'État arrive à faire des appels d'offres sur lesquels il ne choisit pas les entreprises françaises parce qu'elles sont trop chères. Il faut quand même… Alors, qu'est-ce que font les grands groupes du CAC 40 ? Ils vont à l'étranger chercher la profitabilité. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix.
Parce que les marchés sont là aussi, parce qu'on voit la croissance des marchés là aussi.
Et puis aussi parce que vous n'avez pas les charges, vous n'avez pas le poids de la bureaucratie, vous n'avez pas… voilà. Et ils ont la gentillesse quand même de payer des impôts sur les bénéfices en France, mais on les insulte chaque fois en reprenant le verbatim de LFI et en expliquant les surprofits.
Hein, et c'est encore notre sujet, ça, sur propos.
Non, mais si, c'est parce que si vous voulez, en fait, ce qui est important, c'est de comprendre que tout ça est connecté. Je ne demande pas une politique pour les PME. Je demande qu'on baisse les charges
Cotisations sociales.
Les cotisations sociales.
Les partenaires sociaux m'ont dit, il faut dire
cotisations. Voilà, les cotisations sociales et la bureaucratie. Mais en fait, les multinationales se rendent compte en France qu'elles ont aussi ce besoin. L'État a besoin de débureaucratiser, il ne trouve plus de fonctionnaires. Donc il faut qu'ils arrêtent. C'est, voilà.
Alors, il y a eu 60 000 embauches de fonctionnaires l'an dernier en France. Juste un truc, Lionel Roch, vous estimez être le porte-parole des patrons de PME, voilà, qui en ont marre, parce que vous nous racontez, c'est votre quotidien, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes, encore une fois, ce porte-drapeau, cet étendard, et que, comment vous savez qu'il y a un ras-le-bol global des patrons de PME?
Je prétends surtout pas, et j'ai pas la prétention, d'être le porte-parole de qui que ce soit. Ce que je sais, c'est que le livre, il a un écho, il n'en a pas à l'Élysée, mais alors je reçois des messages, en disant mais merci, merci de dire ça, et en général d'ailleurs, me dire mais vous n'êtes pas assez dur. Mais je ne suis pas dur, je suis extrêmement respectueux. Emmanuel Macron, il est élu, et je ne demande qu'une seule chose, c'est qu'Emmanuel Macron réussisse. Mais pour qu'il réussisse, qu'il arrête de nous parler de la Startup Nation et des choses comme ça, et qu'il se rende compte, si vous voulez, qu'il a besoin de PME, de commerçants, de choses comme ça. Parce qu'il faut aussi visionner et visualiser ce qu'est un monde sans les PME, sans les commerçants. Ça, on sert à quelque chose. Et les multinationales devraient aussi le savoir. Moi, sur mes métiers, j'embauche des jeunes de 16 ans, les filières d'apprentissage, jusqu'à des bac plus 2, bac plus 3. Toute cette France-là, et on essaye de leur faire des belles carrières. On ne peut pas avoir que des diplômés, si vous voulez, des bac plus 7, des HEC, tout. Or, c'est ce qui sature le paysage médiatique, on n'entend parler que de ceux-là qui veulent une semaine de 4 jours et du télétravail. Et là,
60%. Une semaine de 4 jours, vous êtes contre, pourtant 75% des Français sont pour, vous savez.
Et ils sont aussi pour l'impôt sur la fortune. Faudrait voir, est-ce que l'impôt sur la fortune sert à l'économie française ou ne sert pas à l'économie française.
C'est quelques milliards en plus de recettes.
Ah oui, bien sûr. Ben, si vous voulez, j'ai un restaurant en Suisse. Je vois le nombre de Français qui viennent dans mon restaurant en Suisse. Ça a coûté combien? De centaines de milliards, le ruissellement vers la Suisse, vers la Belgique. Donc on se repose la question, est-ce que c'est utile à l'économie ou pas utile à l'économie? Est-ce que le télétravail, le tout télétravail était utile? Maintenant, tout le monde sait, enfin tous les patrons savent que c'est un désastre. Ils ne savent pas comment en sortir, mais ils savent que c'est un désastre. Semaine des 4 jours, vous avez...
Les Français aujourd'hui, pareil, sur le télétravail, ils sont favorables. Ils sont même prêts à démissionner si on leur retirait leur jour de télétravail.
Bien sûr. Alors les Français sont prêts à gagner plus et travailler moins. D'accord.
Non, parce que la semaine de 4 jours, c'est on travaille plus les 4 jours, on travaille.
Ça n'existera pas. C'est-à-dire, si vous mettez.
C'est comme ça que sur le terrain, c'est fait, en tout cas, aujourd'hui.
Oui, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait dans l'administration publique et les gars.
Ouais. Dans le privé, il y a plein de boîtes, plein de boîtes qui l'ont fait, qui sont satisfaits.
Les boîtes que vous invitez ici, c'est-à-dire des gens qui, à la Défense et qui ont des hauts salaires et, ou des postes. Mais ça ne durera pas, ils seront d'ailleurs remplacés par l'intelligence artificielle. On doit être solidaire dans un pays. Quand 60% des gens ne peuvent pas être en télétravail, on doit se poser la question, est-ce qu'on met un pays au télétravail? Ouais. La semaine des 4 jours, Gabriel Attal veut débureaucratiser la France. La première chose qu'il nous dit, c'est on va mettre la semaine des 4 jours pour les parents divorcés, non pas divorcés. C'est bon. Qui nous laisse nous occuper des parents divorcés.
Laissez-nous bosser, c'est signé Lionel Roch aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Au revoir.